France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Inès Bouffartigue, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page et à la technique, c'est Marie-Claire Oumabadi. C'est le troisième volet de notre série consacrée à l'essor des droites latino-américaines après un cycle où le continent avait en partie basculé à gauche. Nous avons parlé lundi du Chili. Nous reportons à demain l'émission prévue hier sur Javier Milei en Argentine et qui n'a pas eu lieu pour cause de grève contre les réductions de budget dans l'audiovisuel public. Aujourd'hui en Bolivie, la droite vient d'engloutir 20 ans de domination du MAS, le mouvement pour le socialisme d'Evo Morales.
Il faut que les choses changent. On ne veut plus jamais le MAS, plus jamais le socialisme. Parce que le socialisme nous a beaucoup affectés ici, en Bolivie. On est en train de devenir comme le Venezuela et d'autres pays socialistes.
Je vous prie de nous excuser pour nos erreurs, pour les désagréments causés par les problèmes auxquels le MAS a été confronté. Je vous assure que nous avons mis tout en œuvre pour surmonter chaque adversité qui s'est présentée à nous et que sans l'aide de toute une équipe qui a travaillé sans relâche, la situation que nous traversons serait bien pire.
Nous voulons un capitalisme pour tous, un capitalisme pour produire, un capitalisme pour avoir des ressources, de l'argent, du pouvoir d'achat, pour avoir le droit à des crédits bon marché, pour pouvoir aller de l'avant et pas seulement pour quelques puissants. Le capital pour la grande majorité, l'économie du peuple.
C'est donc avec ce discours d'un capitalisme pour tous que Rodrigo Paz a remporté l'élection présidentielle le 19 octobre dernier, fin d'un cycle politique de 20 ans, durant lequel les mouvements sociaux, les syndicats, les organisations indigènes sont montés en puissance vers le centre de l'État, cette sorte de démocratie corporative, comme le dit l'un de nos invités Diego Velasquez, qu'Evo Morales a d'abord dirigé comme chef incontesté, puis contesté, et que son successeur du MAS, Luis Arce, avait plus ou moins prolongé à sa façon. Mais ce parti, le parti qui dominait la vie politique bolivienne depuis 2005, a été écarté dès le premier tour. Il faut dire que ses forces étaient éparpillées entre deux candidats, plus Evo Morales qui appelait à voter nul, balayé aussi du Parlement où il ne compte plus que 7 sièges quand il en rassemblait les deux tiers jusqu'à présent. Rodrigo Paz est donc le nouveau président de la Bolivie. Quelle droite représente celui qui affrontait au second tour un autre candidat de droite, Jorge Quiroga? Quel remède propose-t-il face à la crise économique, face à la corruption? Quelle place accorde-t-il aux questions indigènes? Et surtout, dans quelle mesure a-t-il réussi à attirer à lui les anciens électeurs du MAS? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Jordi Blanc-Ansari. Merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en anthropologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au laboratoire Développement et Société, et votre thèse porte sur l'appropriation sociale du concept de buen vivir, bien vivre en Bolivie. Merci d'être avec nous, ainsi que vous, Tristan Vague. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes doctorant en sociologie au Centre de recherche et documentation sur les Amériques à l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous travaillez sur la participation citoyenne et les quartiers populaires en Bolivie. Il se trouve que vous avez tous les deux d'ailleurs été en Bolivie cette année en plein pendant la campagne électorale. Vous nous le raconterez. Est-ce qu'on a déjà, Tristan Vague, un aperçu de ce que va être la présidence de Rodrigo Paz pour les 5 ans qui viennent? Il est en fonction officiellement depuis le 8 novembre. Est-ce qu'il a déjà pris des mesures particulières, fait des annonces particulières?
Alors, effectivement, il y a tout d'abord un tournant qui est déjà pris sur le plan économique, avec des mesures de libéralisation de l'économie, de baisse des droits de douane, un alignement aussi au niveau économique sur les États-Unis pour ramener des dollars en Bolivie nécessaires aux importations de la Bolivie. Et également, ça se voit dans la composition de son gouvernement, avec le retour de ministres, de représentant politique lié plutôt à la droite bolivienne, qui était au pouvoir donc jusqu'à l'élection de la gauche du MAS dans les années 2000. Donc un tournant à droite de ce gouvernement qui se traduit aussi par un alignement diplomatique sur les États-Unis, puisque Rodrigo Paz, le nouveau président, s'est rendu à plusieurs reprises aux États-Unis pour rencontrer Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. La Bolivie est sortie de l'ALBA, l'alliance diplomatique et politique dans laquelle elle était aux côtés du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua. Donc on a quand même un tournant à droite sur le plan politique, diplomatique, économique, qui est déjà très marqué.
De nombreuses ruptures d'ores et déjà avec les politiques de son prédécesseur, Rodrigo Paz, qui donc s'est empressé de rétablir les relations rompues jusqu'à présent avec les États-Unis, et le département d'État à Washington de saluer la victoire de Rodrigo Paz et espérer collaborer avec lui pour restaurer la stabilité économique et stimuler la croissance du secteur privé. Donc on voit tout de suite de quel programme économique relève ce nouveau président Rodrigo Paz. D'ailleurs, est-ce qu'il était une évidence, Jordi Blanc-Ansari, pour tous les candidats à cette présidentielle, que de faire de l'économie le maître mot de la campagne, d'en faire vraiment la priorité? De droite et de gauche, tous les candidats ont mis l'accent sur l'économie et sur la crise, surtout économique, que traverse la Bolivie.
Oui, complètement. Je pense qu'il faut resituer ces élections dans un contexte bien précis, un contexte d'inflation, un contexte économique très fragile depuis la pandémie du Covid, qui avait beaucoup marqué tous les secteurs de la vie bolivienne. Donc quand Arce arrive au pouvoir après la pandémie, déjà on a un contexte économique assez fragile.
Luis Arce, donc du MAS, Evo Morales avait désigné comme son successeur, ils se sont éloignés depuis, c'est une autre histoire sur laquelle on reviendra. Mais donc lui, en tout cas, quand il arrive, d'ores et déjà il met l'accent sur l'économie.
On est déjà dans un contexte assez fragile. À la suite, Luis Arce essaye de mettre en place des mesures pour relancer l'industrialisation, pour relancer la vie économique, mais depuis 2023, on est dans une période de crise, notamment la crise du pétrole. Donc les électeurs, qu'est-ce qu'ils pensent au moment de la campagne là de 2025? Ben, ils pensent à rétablir une vie économique stable. Il faut avoir en tête aussi que une bonne partie des électeurs, ce sont des jeunes, à peu près 43% des électeurs sont des jeunes. Et ces jeunes-là ont vécu toute leur vie, on va dire, pendant un mandat du MAS.
Et donc ils ont connu une forme de prospérité quand même, parce que sous le MAS, on a triplé le PIB en moins de 15 ans, le PNB par habitant a été multiplié par 4, mais là ils sont face à une crise qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'à présent.
C'est ça, une crise qu'ils ne connaissaient pas, et en plus ils ont tous les acquis sociaux qui ont été mis en place pendant le MAS depuis les années 2005-2006, pour eux c'est une évidence. Donc la priorité va être axée sur les discours économiques. Et donc le capitalisme pour tous, ça parle à toutes ces classes populaires, à toutes ces classes qui souhaitent accéder au progrès, qui souhaitent accéder à une vie plus digne, entre guillemets, et qu'on ne s'adresse plus à eux comme des indigènes ou comme des pauvres.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce slogan du capitalisme pour tous, Tristan Vague?
Alors, c'est un concept un peu flou, qui est d'abord un argument électoral, discursif, du gouvernement de Rodrigo Paz, mais ça désigne plutôt le secteur des économies populaires, largement informelles en Bolivie. On a environ 80% des entreprises et des petites économies populaires qui sont informelles. Et donc, tout ce secteur-là, il est potentiellement sensible à des baisses d'impôts qui ont déjà été activées durant les différents mandats du MAS, à des incitations fiscales, à des baisses de droits de douane, une forme de capitalisme un petit peu comme ça par le bas, qui peut rendre sensibles les catégories populaires urbaines à ce concept-là. Et donc, ça désigne pas le capitalisme, disons, tel qu'il était présent en Bolivie dans les années 90 et jusqu'aux années 2000, des multinationales, des élites économiques. C'est plutôt un capitalisme qui est censé concerner l'économie populaire informelle bolivienne.
Le nouveau président, il explique à peu près toute la crise économique par le gouvernement de Luis Arce, notamment, qui a perdu toute crédibilité. C'est vrai que comme le MAS a été au pouvoir pendant 20 ans, il est facile de lui attribuer cette crise-là. La politique extractiviste, par exemple, du MAS, qui est pointé du doigt, cette très forte dépendance du cours des matières premières, au cours des matières premières et à leur exploitation, qui avait grandement diminué, même si Luis Arce, vous aviez parlé de début de réforme tout à l'heure, Jordi Blanc-Ansari, Luis Arce avait essayé d'amorcer une forme de transition de l'économie vers des énergies plus renouvelables, ça n'a pas marché, l'économie est encore très très dépendante des cours des matières premières.
Oui, complètement. On est sur des projets d'industrialisation du lithium, par exemple, ou du gaz, mais ça reste des projets assez fragiles, avec des financements et des interventions plutôt de pays dits des Nord. Donc on est dans une limitation de ces projets. D'autant plus que ce sont des entreprises qui, au départ, étaient vouées à être nationalisées, donc des entreprises boliviennes avec des ingénieurs boliviens. Donc il y avait tout ce discours politique du MAS de créer une industrie extractiviste, mais bolivienne, au profit des Boliviens. Et donc là, ce discours-là aussi devient petit à petit, se transforme au gré des fragilités de l'État.
La chute des exportations de gaz, notamment, a beaucoup fragilisé la Bolivie, en particulier les exportations vers le Brésil et l'Argentine, qui absorbaient 80% des ventes, mais qui finalement ont découvert leur propre gisement et donc ont arrêté de passer commande. Un appauvrissement récent des classes moyennes en Bolivie, qui s'était enrichie dans un premier temps sous le MAS avec cet extractivisme redistributif, comme on l'appelle aujourd'hui. Evo Morales, qui a pris acte de l'élection de Rodrigo Paz à la présidence, le met en garde néanmoins contre une trop grande libéralisation de l'économie.
Il a gagné, il doit donc garantir le bonheur du peuple. Et cela signifie fondamentalement servir les personnes qui ont besoin de leur État en ce moment. Et cela ne passe pas par des privatisations, cela ne passe pas par la vente d'entreprises publiques ou de services de base à des multinationales. Pour rendre le peuple heureux, il faut d'abord la sécurité, puis la stabilité. Parce que s'il y a la stabilité économique, il y a la stabilité sociale. Et s'il y a la stabilité sociale, il y a la stabilité politique. Mais s'il n'y a pas de stabilité économique, il n'y a pas de stabilité politique ni sociale, il n'y a pas de sécurité et donc pas de bonheur. Les six fédérations seront toujours vigilantes sur le fait que les conquêtes sociales soient respectées par le nouveau gouvernement.
Fédération syndicale, bien sûr, Evo Morales, ancien président en Bolivie, qui met en garde donc Rodrigo Paz dès le lendemain de son élection. C'était donc le 20 octobre qu'il s'est prononcé. C'est vrai que le MAS avait vraiment axé ses politiques sur la défense des classes populaires. Est-ce que ce sont elles qui se sont retournées contre la gauche aujourd'hui? Quels éléments est-ce qu'on a, Tristan Vague, pour vraiment confirmer un report de voix du MAS vers ce parti de droite, la droite que représente Rodrigo Paz?
Alors, au soir du premier tour, puis ça s'est confirmé lors du second tour, on a constaté que les bastions historiques du MAS, concentrés dans les régions de l'Occidente, c'est-à-dire
les Andes,
les Andes, La Paz, Potosí, etc., qui traditionnellement votaient pour le MAS, pour la gauche, là c'était reporté vers Rodrigo Paz, vers la droite, le centre droit. Ça c'est lié évidemment à la crise économique, notamment le fait que le modèle étatiste qui avait été en place en Bolivie les 20 dernières années ne fonctionnait plus, en tout cas n'était plus perçu par les catégories populaires comme un modèle viable sur le long terme. Et donc ces catégories populaires se sont retournées vers cette droite qui mettait en place ce concept de capitalisme populaire, capitalisme pour tous. Et donc il y a eu un report de voix effectivement des catégories populaires urbaines et rurales, à majorité indigène en Bolivie, de la gauche vers la droite, aussi parce qu'elles n'ont pas voulu se tourner justement vers cette droite plus traditionnel, plus néolibéral, disons, incarné par Jorge Tuto Quiroga, l'adversaire donc de Rodrigo Paz. Donc c'était vu comme un peu la solution du moindre mal, puisque voilà la solution pour ne pas aller vers la droite traditionnelle néolibérale, mais donc se détacher de ce modèle étatiste incarné par la gauche.
Donc ce sont deux droites assez différentes qui étaient présentes au second tour de cette élection, avec donc au crédit entre guillemets, enfin ce qui semble avoir porté au pouvoir Rodrigo Paz, ce discours du capitalisme pour tous, comme vous l'avez tous les deux très bien défini. Peut-être pour reprendre les mots du sociologue Franck Poupeau, la diffusion progressive d'un imaginaire entrepreneurial dont Franck Poupeau dit qu'il a profondément redéfini les horizons de la citoyenneté bolivienne portée par cet État plurinational que représentait et qu'avait mis en place Evo Morales. Est-ce que ça concerne aussi les populations indigènes aujourd'hui, Jordi Blanc-Ansari, qui faisait partie depuis quelques années d'une forme de classe moyenne en Bolivie, qui était qui avait monté les échelons, qui gagnaient mieux leur vie? Est-ce que du côté aussi des populations indigènes, on voit, notamment sur les réseaux sociaux, cette nouvelle passion pour la micro-entreprise, pour l'entrepreneuriat?
Complètement. Déjà, faut préciser que durant cette campagne de 2025, ce qui m'a frappé, c'est le silence des rues. Je sais pas, Tristan, si tu as vu ça aussi. Le silence des rues, avec très peu, finalement, de slogans, très peu d'images, de graffitis qui faisaient écho à ce qui était en train de se passer.
C'était plus atone, d'après vous, que pour toutes les dernières élections.
Complètement. Si on fait référence aux élections de 2019, donc les dernières élections où Evo Morales s'était présenté, on avait des graffitis, on avait des slogans pour ou contre Evo Morales. Donc il y avait vraiment
c'était
une expression.
C'était très polarisé aussi à l'époque. Les événements de l'époque étaient assez violents. Par ailleurs, on y reviendra. Oui, Tristan Vago, juste pour peut-être continuer votre propos, excusez-moi.
Oui, complètement. Enfin, en tout cas, ça fait écho sur cette dernière élection qui était très marquée avec un engagement de la part des citoyens et notamment des classes indigènes, des classes, mais aussi des classes revendicatrices qui s'opposaient aux masses. Là, sur ces élections 2025, j'ai l'impression qu'il y a un silence, il y a un flou total. Des électeurs ne savent pas vers qui ils vont se tourner. Il y a un flou sur le choix des candidats, mais aussi qui se présente. Puisqu'il y a la question de est-ce qu'on va avoir une surprise? Est-ce que Evo Morales va finalement pouvoir se représenter? Jusqu'à la veille des derniers résultats des candidats officiels, bah on a voilà un flou, quelque chose en flottement. Donc c'est quelque chose, je pense, qui a participé aussi à qui a participé en faveur de Paz. Et effectivement, on est sur à la fois des jeunes qui aspirent à participer à cette vie économique, à cette croissance économique, et donc le modèle de prédilection, c'est le micro-entrepreneuriat dans un état où il y a beaucoup d'économie informelle. Et je pense aussi, l'autre point, c'est que les questions ethniques et les questions sociales sont considérées comme acquises. Donc c'est pas le cœur.
Ça, c'est un acquis, il faut avancer, pensent donc tous ces électeurs. Tristan Vague.
Oui, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on avait sous les gouvernements du MAS, de la gauche, au moins ces 15-20 dernières années, une certaine politisation de la société bolivienne avec des conflits politiques, sociaux assez forts entre mouvements indigènes et élites politiques, entre droite et gauche. Et là, la crise économique qui a frappé de plein fouet la Bolivie est venue remettre au centre les enjeux économiques et il y a eu une certaine dépolitisation, on va dire, de la société sur les questions plus politiques, sociales, ethniques et un certain consensus de la société bolivienne vers l'idée qu'il fallait en quelque sorte désidéologiser la société bolivienne et retourner vers une forme de pragmatisme économique pour que et c'est finalement très bien ce qu'a réussi à incarner Rodrigo Paz en disant qu'il allait faire une campagne en dehors des idéologies en se disant lui-même ni de droite ni de gauche et donc en axant son programme sur les mesures économiques.
Propos repris d'ailleurs parce qu'il s'est assez peu exprimé Rodrigo passe depuis son élection, mais son vice-président, lui, Edmond Lara, a beaucoup repris ce discours-là, dépolitisons les choses.
Il est faux de dire que Rodrigo Paz et le capitaine Lara discriminent les organisations sociales. Nous vous devons beaucoup et vous serez toujours présents. Je tiens à exprimer mon respect et mon admiration envers les organisations sociales. Il en va de même pour les 36 nations des peuples autochtones. Mon respect et mon admiration vont à tout le peuple bolivien, à toutes ces personnes humbles qui travaillent, qui vivent au jour le jour, les transporteurs, les artisans, les indépendants, les vendeurs ambulants, les agriculteurs, les femmes au foyer, les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées. Mon respect et mon admiration, vous êtes importants et vous le serez toujours. Personne ne vous discriminera, personne ne vous exclura.
Edmond Lara qui parle de lui à la troisième personne. Le capitaine Lara, c'est un ancien policier. On fera son portrait un peu plus en détail dans le focus tout à l'heure. Vous disiez, Jordi Blanc-Ansari, que la classe moyennisation, entre guillemets, d'une grande partie des classes populaires, qui l'était en tout cas à l'époque d'Evo Morales, c'est une sorte d'acquis sur lequel personne ne pense qu'il puisse y avoir de retour en arrière. Est-ce que c'est également la même chose pour les questions indigènes? Est-ce qu'il y a une sorte d'effet de cliquet? Ce sont des acquis, on n'en parle plus. Ou est-ce que les Indiens de Bolivie aussi doivent subir un retour de bâton au sujet de leurs droits, de tout ce qui a été construit pendant 20 ans?
Alors, deux choses. Premièrement, donc, l'opposition à Paz, donc Quiroga, était justement, représentait une menace potentielle sur ces groupes sociaux, parce qu'ils représentent finalement une droite conservatrice, une droite qui fait écho aussi au coup d'État qu'il y avait pu avoir en 2019-2020.
Vous parlez de coup d'État, on y reviendra tout à l'heure. Oui, non, mais je vous en prie, c'est intéressant, puisque justement, sur le Chili, on a mis en doute la notion de coup d'État pour 2019, donc c'est une question importante, mais on en parlera tout à l'heure. Donc,
en tout cas, Quiroga, oui, il représente un petit peu cette droite conservatrice menaçante, violente, à la fois violente symboliquement, puisque lorsque en 2019 on avait, la droite était arrivée au pouvoir de façon non démocratique, on avait découpé, on brûlait la Wifala, le drapeau indigène, donc c'était symboliquement très fort. Il y avait eu des massacres aussi, notamment à Sencata, dans la zone, une zone périphérique d'El Alto, en Bolivie. Donc finalement, Quiroga, il représentait aussi pour ces groupes sociaux, ces groupes indigènes, une certaine droite conservatrice qui pouvait porter atteinte, alors bien sûr avec plusieurs guillemets, à ces groupes sociaux. Là, avec Paz, on est sur une approche beaucoup plus nuancée. Il ne s'oppose pas directement, il n'est pas anti-indien. Et l'autre point important à avoir en tête, c'est que la question indigène en Bolivie, c'est pas une question unanime. En fait, quand je vous parlais des jeunes tout à l'heure, ils ne se représentent pas forcément indigènes. Ils sont d'origine indigène, peut-être qu'ils sont locuteurs Aymara, Quechua, Guarani. Ils se représentent peut-être dans leur communauté d'origine, dans un cadre cérémoniel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pour eux, ils se sentent concernés par une question indigène. Ils ne se sentent pas stigmatisés par cette identité.
Donc peut-être que certains d'entre eux ont voté pour Jorge Quiroga, arrivé au second tour avec près de 27% des voix au premier tour, qui avait annoncé qu'il reviendrait sur notamment les droits collectifs d'accès à la terre qui ont été reconnus aux indigènes sous les mandats d'Evo Morales. Néanmoins, est-ce que cette conviction subsiste à gauche et chez une certaine droite que la nation bolivienne peut se régénérer intellectuellement et moralement à partir des populations indigènes? C'est à très gros traits l'idée de départ de la refondation de la Bolivie par Evo Morales. Est-ce que ce discours-là est devenu suranné en Bolivie, Tristan Vague?
Alors, il y a une opposition quand même qui est ancienne, hein, qui est traditionnelle en Bolivie, entre des classes moyennes urbaines, métissées, disons, ou d'origine indigène, mais qui, comme ce qui vient d'être dit, ne se reconnaissent pas forcément indigènes, et des catégories populaires rurales, majoritairement campesinas, paysannes, qui, elles, se reconnaissent indigènes. Donc, cette opposition, elle est vraiment ancienne, et on peut voir, effectivement, qu'un certain nombre de catégories populaires moyennes, indigènes ou d'origine indigène, ont tendance à ne plus se reconnaître comme indigènes et y a sans doute eu aussi à ce niveau-là donc une fragilisation du vote du MAS qui, lui, le MAS, a toujours tenu à mobiliser, disons, une image plus ancienne, plus authentique des autochtones autour de symboles très forts. Et effectivement, beaucoup de gens en Bolivie aujourd'hui ont du mal à se reconnaître indigènes, ou en tout cas c'est pas forcément le cas dans un certain nombre d'endroits. Et donc il y a cette tension autour de qu'est-ce qu'être indigène, et est-ce que ça vaut le coup aussi politiquement de se reconnaître indigène? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui peut nous faire bénéficier en termes de reconnaissance symbolique, économique, etc.
Jordi Blansari.
Oui, cette question de la reconnaissance et de cette catégorie indigène, elle est vraiment marquée aussi au niveau urbain. Parce qu'en fait, on a souvent en tête de penser les indigènes dans la forêt ou dans les hauts plateaux. Sauf qu'en Bolivie, vous avez beaucoup d'indigènes en zone urbaine.
Et c'est Cholos, c'est ça?
Par exemple, notamment. Et puis tous ces jeunes qui vont plutôt revendiquer leur identité urbaine. Je suis alteño, je suis alteña, même si ça veut dire en arrière-fond que nous sommes d'origine des communautés, nous sommes d'origine indigène. Donc cette identité urbaine, je pense que elle est rattachée à cette question économique, hein, d'expansion, d'émancipation économique. Je pense qu'elle est importante à avoir en tête.
Alors si Rodrigo Paz, lui, est blanc, né en Espagne, d'un père qui fut aussi lui-même président de la Bolivie dans les années 90, il ne se positionne pas néanmoins, on l'a entendu et vous le dites, sur des questions identitaire au sens bolivien du terme, c'est-à-dire opposer les populations les unes contre les autres. Est-ce que sur d'autres questions comme l'immigration, par exemple, dont on a beaucoup dit au Chili que c'était vraiment devenu une nouvelle question, est-ce qu'en Bolivie la question se pose ou c'est un non-sujet, Tristan Vague?
Historiquement, il y a quand même une faible immigration en Bolivie. Cependant, on peut dire que ces dernières années, on a constaté quand même dans certaines zones urbaines, notamment à La Paz, Santa Claus, la présence de migrants vénézuéliens, notamment. Et ça peut être quelque chose. J'ai pu observer des formes de discrimination dans la rue à l'égard de migrants vénézuéliens par les Boliviens. Et donc ça peut rejoindre l'idée d'un certain conservatisme social quand même d'une partie importante de la société bolivienne sur les questions d'immigration, mais aussi d'avortement. Il n'y a pas de consensus pour un des droits à l'avortement en Bolivie. Et aussi une forte religiosité, notamment des catégories populaires, mais aussi des classes moyennes et classes supérieures, qui se traduit notamment par l'expansion des églises évangélique, notamment en zone urbaine, et tout ça fait que on peut dire que sur le plan des mœurs, on peut pas vraiment parler d'un progressisme majoritaire en Bolivie aujourd'hui,
y compris dans des populations que l'on dit indigènes. Alors, il me semble qu'il n'y a qu'en Bolivie qu'on continue à dire les indigènes plutôt que des populations autochtones, mais c'est une question très particulière en Bolivie, mais peut-être que vous me direz que je me trompe à ce sujet, mais la question indigène est très complexe et beaucoup ont voté pour des partis plus conservateurs sur le plan des mœurs, notamment parce que les églises évangéliques sont très implantées en Bolivie aujourd'hui. Maintenant, sur quels échecs de la gauche bolivienne, du MAS capitaliste, c'est le cas de le dire, la droite bolivienne, celle de Rodrigo Paz qui a été élu président en octobre, Jordi Blanc-Ansari, est-ce que, d'une certaine façon, c'est facile pour elle de critiquer tout ce qui a été fait, sur quels échecs précis est-ce qu'elle mise ? Est-ce qu'elle a misé pour l'élection plutôt ?
Je pense qu'elle a misé sur l'échec économique, parce que tous les progrès, enfin tous les avancées qui avaient pu être mis en œuvre sur le plan social, sur le plan juridique, que ce soit pour respecter les justices, enfin, la mise en place d'une reconnaissance de la justice indigène par exemple, la reconnaissance de 36 nations dans un État plurinational, ces éléments-là, ça va être difficile peut-être de revenir en arrière. Enfin, c'est porté par tout un tas de syndicats, de fédérations et de mouvements sociaux. Donc c'est pas vraiment ça qui va porter le discours de ces acteurs-là, c'est vraiment le levier économique, la possibilité de déclencher, de désamorcer les limites et surtout régler la problématique du pétrole.
Est-ce qu'il est flagrant, par exemple, que ces dernières années en Bolivie, quand le MAS était encore au pouvoir, non plus sous Evo Morales, mais sous Luis Arce, les investissements dans les infrastructures ou tout ce qui devait contribuer au développement économique de la Bolivie à destination des classes populaires ou de ceux qui étaient le plus éloignés des centres urbains, est-ce que tout ça a été un peu à l'arrêt par ailleurs, Tristan? En vague, est-ce qu'il y avait des raisons objectives de dire que le MAS avait un peu abandonné ses électeurs d'origine ?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a pu se constater sur le terrain à travers la baisse des investissements dans les infrastructures urbaines notamment. Il y avait eu à l'époque du MAS tout un ensemble d'infrastructures routières, d'hôpitaux, d'écoles qui avaient été construites et il y a eu une baisse des investissements dans ces infrastructures liées à la crise économique que connaît la Bolivie depuis plusieurs années. Également une baisse des investissements dans les économies populaires, informelles, celles qui peuvent être attirées par justement ce concept de capitalisme populaire et qui ont pu bénéficier dans un premier temps des politiques avantageuses du MAS, mais qui ont vu leurs attentes frustrées justement du fait de cette crise économique. Donc tous ces secteurs populaires urbains, ruraux, ont constaté de façon très concrète une baisse des investissements, une baisse des ressources redistribuées par l'État, ce qui a alimenté aussi tout un ensemble de frustrations vis-à-vis de l'État et finalement parfois une critique du rôle de l'État dans l'économie.
Qui reste aujourd'hui le socle de soutien d'Evo Morales en personne, c'est-à-dire non plus seulement du MAS, mais de cette branche, entre guillemets, du MAS que représentait Evo Morales, puisque le parti est très divisé. Il s'est d'ailleurs présenté aux élections divisé en trois, pour ainsi dire, l'ancien ministre Eduardo del Castillo sous l'étiquette officielle, Andrónico, je crois, Rodríguez de son côté, mais aussi Evo Morales sous son spectre, puisqu'il avait appelé à voter blanc et que 19% des suffrages au premier tour furent des votes nuls, alors qu'habituellement le vote nul recueille 3,5% à peu près. Donc c'est un peu comme si Evo Morales avait obtenu 15% des voix. Qui sont ceux qui continuent à croire dans un retour d'Evo Morales au pouvoir, si on croit à un retour Jordi Blanc-Ansari?
Je pense que le soutien à Evo Morales est à penser notamment auprès des cocaleros, des syndicats cocaleros de la zone du Chaparré.
Des producteurs de coca.
Voilà, des producteurs de coca. Et puis, il faut avoir en tête aussi que lorsque Evo Morales revient en Bolivie, il arrive un peu comme un... de manière triomphale. Il arrive par les routes, il arrive de village en village avec une cohorte, un défilé. Donc il cherche aussi à attirer le vote des zones rurales, des populations paysannes. Donc voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut penser. Donc les électeurs plutôt des zones rurales andines, de l'altiplano. Ça me permet de faire une précision aussi sur que la dimension indigène en Bolivie, souvent on l'essentialise à la question andine, aymara et quechua, alors qu'il y a beaucoup d'indigènes, on parle de 36 nations, qui sont oubliés, notamment dans les zones amazoniennes, et qui ont été oubliés des politiques du MAS déjà. Donc il y a aussi ce retour de bâton pour le MAS, d'avoir perdu une grande part des électeurs indigènes, soit parce qu'ils n'ont pas été compris dans les programmes politiques, soit parce qu'il y a eu des tensions, notamment lors du conflit du Tipnis, avec des idées de développer une certaine économie dans la zone orientale qui a provoqué des oppositions de la partie amazonienne.
Les agriculteurs des plaines qui étaient dépossédés de leurs terres par les paysans des Andes, donc la question indigène à ce moment-là, les électeurs indigènes se sont déchirés à ce moment-là. Oui, Tristan Vague, c'est encore présent, cette douleur-là qui date de 2011, 2012 à peu près.
Oui, alors il y a eu des conflits assez importants dans les années 2010 autour de revendications des peuples indigènes, notamment en Amazonie, un conflit bien connu qui est autour du Tipnis, qui était un parc national, et un projet, le gouvernement du MAS d'Evo Morales avait mis en place un projet de construction de routes dans cette zone qui était un parc protégé, et donc il y avait eu des conflits très forts, et déjà à ce moment-là, une première désaffection, disons, au niveau politique des peuples indigènes, notamment amazonien, à l'égard du MAS, à l'égard de la gauche. Et aussi, ça avait alimenté un certain nombre de critiques, notamment des classes moyennes de gauche, qui avaient pu, dans un premier temps, voter pour le MAS, et qui, là, se sentaient concernées par donc des thématiques environnementales sur lesquelles elles voyaient bien que le MAS avait un peu des difficultés. Mmh. Ça a pu aussi jouer sur l'affaiblissement progressif du MAS, de la gauche, au cours des années 2010 et jusqu'à sa défaite, à la fin des années 2010, dans un premier temps avec l'éviction d'Evo Morales suite à
changement de la constitution. En quelques mots, voilà, il avait changé la constitution pour pouvoir se représenter au-delà du nombre de mandats jusqu'à présent autorisé. Voilà. Le référendum lui donne tort, si je ne m'abuse, il lui décide que c'est une erreur. Les élections se profilent et il y a quand même quelque chose d'un peu étrange qui se passe une nuit, puisque la page internet du Tribunal suprême électoral, qui annonçait le dimanche soir juste après l'élection, après décompte de plus de 80% des voix, une avance de 7 points d'Evo Morales sur son adversaire, et bien le lendemain, quelques heures après, il en avait plus de 10,1 points d'avance qui lui donnait juste de quoi être réélu pour un quatrième mandat dès le premier tour. Et ça, notamment dans la région de Santa Cruz, on n'a pas du tout voulu laisser passer ça. Des grandes manifestations ont commencé qu'Evo Morales a tout de suite dénoncé.
Comme vous le savez, frères de la presse, un coup d'État est en train de se produire contre un gouvernement démocratiquement élu. J'appelle à un dialogue afin de pacifier la Bolivie.
Alors si je vous fais réentendre ces archives-là, c'est qu'il me semble que cette séquence-là, on l'avait extrêmement commentée, observée depuis la France et qu'on n'en parle plus du tout de la Bolivie aujourd'hui, enfin depuis que le MAS et Evo Morales a laissé la place à Luis Arce et tout ce qui s'ensuit et que vous avez raconté depuis le début de cette émission. Est-ce que d'abord, aujourd'hui, en 2025, on a de nouveaux éléments permettant de dire et de confirmer ce qu'Evo Morales et ses soutiens disaient à l'époque, à savoir qu'il s'agissait d'un coup d'État, et en effet les militaires avaient quand même plutôt soutenu celle qui fut ensuite présidente par intérim, qui est arrivée bible à la main au Parlement pour prêter serment. Est-ce qu'aujourd'hui on a des éléments tangibles? Et si je vous pose la question, c'est que ça me semble d'autant plus important de réfléchir au choix des mots, d'autant qu'au Chili, encore une fois lundi, on s'est offusqué de ce que la droite parlait aujourd'hui des grandes manifestations de 2019, comme d'un coup d'État orchestré par le Venezuela notamment et Cuba. Donc voilà, je voulais juste savoir s'il y avait du nouveau sur cette séquence-là. Qui veut répondre, Tristan Vague?
Oui, alors, ce qui est clair, c'est qu'au départ, tous ces événements qui ont mené à ce qu'on peut appeler un coup d'État ont commencé par la décision d'Evo Morales, comme vous l'avez rappelé, de ne pas respecter le résultat d'un référendum qui lui disait qu'il n'avait pas le droit, selon la majorité populaire, donc de se représenter pour un autre mandat en 2019. Ensuite, il y a donc le soir du premier tour, une faille du système technique de comptage des votes qui fait qu'il y a des grandes manifestations qui s'organisent pour accuser Evo Morales de fraude électorale. Jusqu'à aujourd'hui, cette fraude électorale, on n'a pas vraiment d'éléments qui permettent de dire qu'elle a vraiment eu lieu, même s'il y a bien donc des irrégularités de la part d'Evo Morales dans le respect de la décision démocratique.
Surtout que c'était assez nouveau, l'accusation de fraude électorale n'avait jamais été brandie par l'opposition de droite, y compris quand le MAS a remporté 64% des scores aux élections 2009, 61% en 2014, etc. C'était pas une question, la fraude.
Non, c'était quelque chose d'assez nouveau. Après, dans un second temps, il y a quand même l'accession d'un gouvernement transitoire de droite au pouvoir qui n'a aucune légitimité démocratique et qui met en place une répression policière, même militaire, très violente contre les secteurs populaires, notamment indigènes, qui eux soutiennent donc le gouvernement du MAS et s'opposent à l'éviction forcée d'Evo Morales. Et donc, on peut bien parler quand même de au moins de coup d'État dans le sens où répression policière, militaire, hors tout cadre légal, contre des populations civiles, et quand même donc des organismes internationaux qui sont venus constater ces crimes, et qui ont constaté donc des formes de massacres de populations civiles, jusqu'à parfois plus de 50 morts.
Est-ce qu'aujourd'hui la droite bolivienne continue à rappeler cet épisode-là et le MAS d'ailleurs aussi, mais est-ce que les partis politiques boliviens continuent à prendre pour une sorte de référence ce qui s'est passé cette année-là pour jeter de l'huile sur le feu, polariser plus encore la société comme elle l'était à l'époque? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est instrumentalisé, Jordi Blanc-Ansari?
Je pense que la reconnaissance, en tout cas l'intérêt porté aux avis de la Cour constitutionnelle est d'autant plus important, notamment lorsque là, il y avait le spectre qu'Evo Morales puisse se repositionner, les électeurs étaient assez attentifs sur le positionnement de la Cour constitutionnelle. Donc effectivement, il y a cette histoire qui vient en tête. Après, il faut préciser aussi que ces élections 2019, elles n'étaient pas neutres. Déjà, effectivement, il y avait cette volonté de s'imposer comme candidat alors qu'il n'y avait pas l'autorisation préalable. Mais surtout, il y avait des observateurs internationaux qui étaient là pour éviter la fraude. Donc ça veut dire que dès le départ, on s'attendait à une fraude, on se préparait à une fraude. Que ce soit les experts internationaux ou les partisans de l'opposition, ils attendaient cette fraude, ils la voulaient, ils la désiraient. Donc il y avait aussi ce petit flottement sur comment on se positionne. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments tangibles pour dire ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on sait que c'était un sujet déjà en débat avant même d'avoir les résultats.
Alors, ne pas attiser la polarisation, ne pas attiser la haine, faire en sorte que cet épisode de 2019 reste du passé et essayer de regarder vers l'avenir le plus possible. Si je vous pose aussi cette question, c'est parce que au Chili notamment, dont il était question lundi, on a beaucoup parlé de l'instrumentalisation. Alors ça remonte un peu donc des manifestations de 2019, mais aussi de la dictature, de la présence militaire, mettre en avant pour la droite chilienne aujourd'hui les questions sécuritaires en disant à l'époque de la dictature d'Augusto Pinochet, au moins on vivait en sécurité. Et on ne peut pas ne pas faire le parallèle avec les dictatures qu'a connues la Bolivie, dictature militaire établie à l'époque suite à des coups d'État soutenus par la CIA. Donc Rodrigo Paz lui-même est le fils d'un ancien président qu'il a été de 89 à 93, mais qui avait été contraint à l'exil pendant la période de cette dictature militaire bolivienne. Est-ce qu'on peut donc imaginer que cette droite-là, contrairement à la droite chilienne, ne nourrit pas de nostalgie de la dictature, que ce n'est pas en fait un sujet, y compris à droite, Tristan Vague?
Non, il n'y a pas de nostalgie, disons, de l'époque de la dictature, du fait de l'histoire personnelle du nouveau président Rodrigo Paz, qui, comme vous venez de le dire, est le fils d'un dirigeant politique d'un parti de gauche, Jaime Paz, qui était ensuite président et qui avait lui-même subi donc la dictature, parti en exil, notamment en Espagne, où est né l'actuel président Rodrigo Paz. Donc il n'y a pas de nostalgie pour la période de la dictature. Il y a cependant une certaine forme de nostalgie peut-être pour les années 1990 et justement de liens très forts au niveau politique avec les États-Unis, qui avaient mis en place aussi des pratiques de répression policière et parfois même militaire à travers la DEA, la Drug Enforcement Agency, l'agence antidrogue états-unienne, qui avait un peu la mainmise dans certaines zones du pays pour réprimer les cultivateurs de feuilles de coca. Et Rodrigo Paz a annoncé récemment qu'il réfléchissait au retour de la DEA, de l'agence antidrogue états-unienne en Bolivie, pour justement reprendre le contrôle sur certaines zones qu'il juge complètement dominées par le narcotrafic. Donc il n'y a pas de nostalgie pour la dictature, mais il y a une certaine forme de nostalgie pour quand même un espèce de pro-américanisme qui n'a pas fait que des heureux dans les années 1990 en Bolivie.
Et sur le continent, on peut citer la Colombie comme véritable contre-exemple de ce que la DEA, quand elle vient en aide aux États sud-américains pour les aider à chasser le narcotrafic et les trafiquants de drogue, en fait, crée plus de violence qu'elle ne la chasse ou qu'elle ne la pacifie. Donc est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question et un débat, Jordi Blanc-Ansari, parmi les électeurs boliviens, dans la presse bolivienne, que le retour d'une forme répressive de la lutte contre le narcotrafic dans le pays?
Alors c'est vrai que la question de la lutte contre le narcotrafic pendant le gouvernement du MAS, depuis Evo Morales jusqu'à Arce, était plutôt tournée autour d'autres acteurs, notamment l'Union européenne, qui finançait des projets alternatifs à la production de coca pour inciter les producteurs de coca à se tourner vers le café, vers les agrumes. Donc il y avait tout un tas de dispositifs, d'acteurs du développement qui étaient en faveur de ces politiques anti-drogue, mais alternatives, douces, on pourrait dire. Et il y avait cette opposition politique répressive et militaire qui avait connu la Bolivie avant Evo Morales, donc avant l'élection du MAS. Aujourd'hui, je pense que la question, elle est assez complexe parce que l'arrivée ou le retour de ces politiques anti-drogue nord-américaines va forcément bousculer tout le paysage rural des zones productrices de coca, puisqu'en fait, concrètement, pendant ces années MAS, il y a eu une augmentation des parcelles, il y a eu une augmentation des droits de culture de coca, que ce soit dans la zone du Chaparré, qui est assez connu pour ça, mais pour d'autres zones aussi qu'on connaît plus comme traditionnelles de culture de coca, comme les Yungas ou Caranavi ou l'Alto Beni. Donc voilà, je pense que ça va redessiner vraiment le paysage.
Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla hasta imanta, minero gina causa tuni, manaima y pisca puanchu, suque tu yaita sapescai. Minero manta yuya kunki, minero gina causa tuza, mi huarcachari causa pari, huacaricus pasipusca.
Le groupe bolivien Sabia Andina qui chante El Minero, le mineur. C'est une chanson qui date de 1980. Vous écoutez Culture Monde, les droites de retour en Amérique latine, aujourd'hui en Bolivie, où le MAS, le parti d'Evo Morales, qui dominait la vie politique bolivienne depuis 20 ans, a été balayé l'élection présidentielle, mais aussi du Parlement. Le nouveau président de droite, Rodrigo Paz, s'est choisi pour vice-président un ancien policier qui se présente un peu comme le chevalier blanc de la lutte anticorruption.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La corruption no solo roba dinero.
La corruption vole l'argent. La corruption vole la confiance. Elle vole l'avenir. Elle vole même la foi. Nous devons assainir nos institutions. Nous devons éradiquer la corruption et nous devons transformer le système judiciaire afin qu'il reflète à nouveau le peuple et ne soit plus un refuge pour les puissants.
Edmond Lara s'est fait connaître sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui cumulent des dizaines de milliers de vues à chaque fois qu'il dénonce des institutions corrompues. Bonjour Diego Velasquez.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes chercheur indépendant en sociologie politique associé à l'EHESS. D'abord le policier qu'il fut, Edmond Lara, qui a commencé d'abord par dénoncer la corruption dans la police puisqu'il y travaillait. Est-ce qu'à chaque fois, à l'appui de ses discours, il avance des preuves, il recueille des témoignages ou il s'est mis un peu en mode automatique et voit de la corruption partout?
C'est sûr qu'il y a une partie que c'est un discours assez généraliste, mais il présente régulièrement des preuves. Notamment quand il a accusé les anciens candidats à la vice-présidence de Tuto Quiroga, il a présenté des preuves qu'ils avaient bénéficié de la faillite, de la chute d'un banque en Bolivie, assez connu, le Banco Facil, que c'était aussi un cas de corruption très connu. Il a présenté des preuves, ce qui a endommagé évidemment la candidature de Juan Pablo Velasco. Mais c'est vrai qu'il y a un étirement aussi de la corruption ou l'utilisation politique du discours contre la corruption pour Edmond Lara, mais aussi pour les gouvernements de Rodrigo Paz.
Entre-temps, il a été policier, entre-temps il s'est lancé dans le commerce, il vendait des vêtements d'occasion, c'est ça, sur les marchés?
Oui, c'est ça. C'est un profil assez particulier, il a été policier, il a dénoncé la corruption et après il était éloigné des forces policières. Tout ça télévisé au niveau national. C'était assez polémique parce qu'on voyait que l'ancien commandant de la police, il prenait des bras l'école d'Edmond Lara. Et du coup, c'est à ce moment qu'il est devenu un peu une figure nationale, une icône de la lutte contre la corruption. Et ensuite, il a commencé à devenir marchand sur les marchés à Santa Cruz. Un commerçant informel parce qu'il payait pas d'impôts. Enfin, c'est à ce moment-là aussi qu'il est, enfin, il est rentré en contact avec les commerces informels assez répandus en Bolivie, qui représentent 85% aujourd'hui de l'économie bolivienne.
Et l'alliance entre Rodrigo Paz, donc nouveau président, et Edmond Lara, qu'il a choisi comme vice-président, s'est faite naturellement. Qui a approché l'autre?
On peut pas dire ça, en fait. Je pense, je suis convaincu que la victoire, Rodrigo Paz, ainsi qu'Edmond Lara, ils se sont retrouvés avec la victoire. Il y a un poème assez intéressant d'un Péruvien qui s'appelle Guardian del Hielo. Et du coup, il raconte que, il y avait un monsieur qui s'est promené, il s'est retrouvé avec le marchand des glaciers. Et les marchands des glaciers les disent, prenez soin de ça, s'il vous plaît, c'était des glaçons. Juste le soleil s'invite. Et du coup, la métaphore, c'est que c'est quelqu'un qui veille les fermières sous le soleil. Et je pense que c'est justement ça, les cas de figure qui représentent Rodrigo Paz et Edmond Lara. Ils ne se sont pas retrouvés de façon programmatique et idéologique. Rodrigo Paz, il avait lancé sa candidature. Au début, il avait une autre personne en tant que candidat à la vice-présidence. C'était Sébastien Careaga, quelqu'un qui était aussi commerçant dans l'entrepreneuriat et très lié aux mineurs des Potosí. Et Sébastien Careaga, il a décidé de partir de faire partie de la candidature de Samuel Doria Medina.
C'est un autre candidat. Voilà, donc ils se sont éloignés. Donc c'est un peu à Rodrigo Paz sa caution classe populaire, entre guillemets, parce que lui, il représente plutôt une forme d'oligarchie, le président. Donc il y a sans doute trouvé aussi un intérêt électoral. Il est encore trop tôt pour savoir si et comment le nouveau gouvernement va s'attaquer de façon structurelle à la corruption. En attendant, comment sont censées travailler les commissions parlementaires à qui il a été annoncé qu'elle allait être confiée cette mission-là? Est-ce qu'on sait comment ce nouvel attelage à la tête de l'État pense lutter contre la corruption?
Je pense que malheureusement, ce n'est pas une priorité pour les nouveaux gouvernements de lutter contre la corruption. C'est plutôt de l'utiliser comme de façon discursive. L'autre jour, le président il avait annoncé qu'ils avaient fait les recherches à l'intérieur de l'État et du coup, il y avait 15 milliards de dollars qui avait disparu dans des cas de corruption. Mais si on se rend compte, 15 milliards d'euros, des dollars, pardon, c'est un chiffre énorme. Cela voudrait dire que la Bolivie, c'est vraiment les noyaux de la corruption mondiale. Évidemment, il y a un étirement des discours de la corruption. On peut accuser les masses d'avoir mal gestionné les fonds publics. Mais il y a une utilisation politique de la corruption contre la corruption. Hier aussi, le président il avait sorti pour dire que l'entreprise, l'organisme qui gère les fonds de retraite en Bolivie, qu'ils avaient plus d'argent et qu'ils ne retrouvaient pas l'argent. Et le lendemain, c'était le ministre de l'économie qui a dû sortir pour dire qu'évidemment, l'argent, il est là, sauf qu'il est investi et du coup, il n'est pas un papier. Quoi.
Il n'est pas là dans une enveloppe à attendre qu'on en fasse bon usage. En 2005 aussi, le MAS avait lui-même été élu sur des promesses de lutte contre la corruption après l'affaire de détournement de fonds publics dite des gastos reservados entre 90 et 2005. En quelques mots, c'était en 96, le président bolivien de l'époque, Sanchez de Lozada, avec le soutien de la Banque mondiale, avait commencé à privatiser le secteur des hydrocarbures, signé un contrat avec Enron sans informer le Congrès national bolivien. Le contrat était resté secret pendant 2 ans jusqu'à ce qu'on découvre que des fonctionnaires avaient reçu 4 millions de dollars d'Enron lors des négociations. Quand le MAS a-t-il commencé à user lui-même de ce qu'il avait dénoncé? Il y a eu des affaires précises qui prouvent que le MAS a instauré aussi, a poursuivi ses pratiques de corruption.
Oui, il y a des cas iconiques au long des 20 années. Enfin, c'est aussi 2 décennies, du coup, il y a pas mal des cas de corruption, que c'est assez triste. Si je me souviens mal, si je me souviens pas très bien, les premières, c'était celle de Santos Ramírez, qui était les ministres, c'était quelqu'un assez proche d'Evo Morales. Après, il y a eu les cas de Gabriela Zapata, qui était l'ancienne copine d'Evo Morales, qui s'est retrouvée bénéficiée par sa relation proche avec l'ancienne présidente.
Elle était avocate et la presse a révélé que l'État avait signé des contrats au bénéfice d'une entreprise chinoise de BTP pour laquelle elle travaillait, Gabriela Zapata.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Une petite amie d'Evo Morales.
Du coup, là, on peut voir qu'il y a la corruption. Malheureusement, ça ne dépend pas d'un gouvernement. Et en ces moments, j'ai l'impression qu'il y a une... Les gouvernements, ils sont en train d'utiliser la corruption pour des mesures, des chocs qu'il va... et d'ajustements budgétaires qui vont implémenter pour la suite. C'est un peu au retour aux années 90, quand on pensait que moins d'État, moins d'expansion de l'État voulait dire qu'il y aurait moins de corruption. Alors on a vu qu'au long des années 90 et début des années 2000, c'était pas du tout ça. Les masses, il est parvenu au pouvoir justement parce que les systèmes, ils étaient corrompus.
Diego Velasquez, une dernière question. L'une des premières mesures prises par le gouvernement ou par le Rodrigo Paz quand il est arrivé au pouvoir, c'est de supprimer le ministère de la Justice. On dit la justice en Bolivie être un secteur très corrompu. Est-ce que c'était une évidence de supprimer le ministère de la Justice? C'est-à-dire, est-ce que c'est le supprimer pour en reformer un? Est-ce que c'est le supprimer pour que la justice, au contraire, la démanteler, en attendant comment fonctionnent les tribunaux?
Encore une nouvelle fois, je pense que la priorité, ce n'est pas la corruption. Et je pense que la suppression du ministère de justice, malheureusement, répond à des tensions internes qu'il y a au niveau du gouvernement.
Déjà des tensions internes?
Ouais, oui.
Alors qu'il vient juste de se mettre en place?
Ça, c'est les problèmes de comment ils se sont retrouvés. Ce n'est pas programmatique ni idéologique, c'était vraiment juste l'occasion et l'opportunité. Edmond Lara, il avait besoin d'un parti et Rodrigo Paz, il avait besoin d'un candidat à la vice-présidence. Et du coup, les premiers ministres de justice étaient quelqu'un proche d'Edmond Lara. C'était la seule personne qu'il avait pu introduire au Conseil des ministres. Et du coup, l'entourage de Rodrigo Paz, il avait décidé d'isoler Edmond Lara. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont retrouvé une sentencia, une décision de justice qui a tenu l'ancien ministre de justice. Et je pense que ça répond plutôt aux tensions politiques qu'il y a aujourd'hui au gouvernement.
Merci beaucoup Diego Velasquez, restez avec nous. Peut-être une réaction sur cette question de la corruption. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une priorité nationale sur laquelle s'accordent tous les candidats de quel parti qu'ils soient, ou est-ce que c'est une forme de cache-misère pour mettre en avant cette question-là, pour éviter de dire qu'on va finalement mettre en place des politiques d'austérité pour redresser l'économie bolivienne, Tristan Vague?
Alors je dirais que effectivement la corruption, je suis tout à fait d'accord, il y en a une utilisation instrumentale politique pour s'opposer pour dénoncer ses opposants toujours les plus corrompus, plus corrompus que nous-mêmes. Cependant, c'est vrai que le thème de la corruption, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup politiquement, auquel les électeurs sont très sensibles en Bolivie, parce que c'est quelque chose en fait du quotidien. La corruption, c'est celle des policiers, c'est celle des juges, des administrations locales. Donc tout le monde a été confronté au moins une fois à la corruption. La corruption en Bolivie, c'est quelque chose de démocratisé. Donc, c'est un thème très, très sensible.
Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Tristan Vague, doctorant en sociologie au Centre de recherche et documentation sur les Amériques à l'Université Sorbonne Nouvelle. Merci beaucoup, Jordi Blanc-Ansari, maîtresse de conférence en anthropologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au laboratoire développement et société où vous êtes chercheuse. Merci d'avoir été avec nous. Ainsi qu'à vous, Diego Velasquez, chercheur indépendant en sociologie politique associé à l'EHESS. Merci. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Avec un fil rouge ce matin, Catherine, Big Brother is watching you, en anglais s'il vous plaît. En Inde d'abord, l'État ordonne aux fabricants de téléphones portables d'équiper tous leurs nouveaux modèles d'une application de cybersécurité.
Une application conçue par le gouvernement pour aider les utilisateurs à retrouver leur portable en cas de vol ou de perte, rapporte The Hindu, avec l'enregistrement des numéros e-mail ou IMEI, sorte de carte d'identité de chaque téléphone, pour identifier aussi toute utilisation suspecte, piratage informatique, cybercriminalité, assure New Delhi. Cette application, baptisée Sanchar Sati, partenaire de communication en langue hindi, aide à localiser, à bloquer les appareils perdus perdus ou volés. 700 000 téléphones ont ainsi pu être récupérés depuis le lancement de l'application en janvier, indique Reuters et la Deutsche Welle. Mais en la rendant obligatoire, désormais sur tous les portables fabriqués ou vendus en Inde, cette application du gouvernement signifie une invasion de la vie privée des citoyens, alerte l'opposition, et notamment Kesi Venugopal, député du Parti du Congrès, interrogé par Annie News. Cette application serait en fait une porte dérobée permanente pour la surveillance, titre le journal indien Scroll In, une polémique également analysée par The Hindu.
All new devices must ship with the app built in, fully functional from the moment the phone is switched on and impossible to disable.
Tous les nouveaux appareils doivent être livrés avec l'application intégrée, pleinement fonctionnelle dès l'allumage du téléphone et impossible à désactiver, précise The Hindu. L'ordonnance du gouvernement exige également des marques qu'elles déploient l'application via des mises à jour de logiciels sur les appareils déjà commercialisés, et l'opposition qualifie cette mesure d'intrusive. Elle serait même inconstitutionnelle. Risque d'abus. Craintes infondées, répond le gouvernement indien. L'application ne collecte aucune donnée personnelle, assure-t-il. Mais des associations de défense des droits numériques sonnent l'alerte. Les futures mises à jour pourraient étendre les accès de l'application au-delà de la question de la sécurité des télécommunications. Inquiétude plus large, analyse encore The Hindu, sur l'évolution de l'Inde où la sécurité numérique, définie par l'État, prime sur la protection des citoyens. Alors que l'Inde, le pays le plus peuplé de la planète avec près d'1,5 milliard d'habitants, rappelle la BBC, compte 1,2 milliard d'utilisateurs de portables. Selon Reuters, Apple n'a pas l'intention de se conformer à cette demande du gouvernement indien. Risque de tension avec la marque à la pomme, prévient India Today. En tout cas, l'Inde n'est pas le seul pays à avoir durci ses règles en matière de vérification de portables. En août, la Russie a imposé aux fabricants de smartphones l'installation de la messagerie locale Max, soutenue par l'État, rappelle la BBC. Là encore, possible outil de surveillance selon les défenseurs des libertés.
La Chine aussi augmente encore la surveillance sur ses citoyens.
Et ce, grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce que révèle le Washington Post et un rapport de l'Institut australien de politique stratégique. Pékin dispose, on le sait, déjà d'un système sophistiqué de surveillance et de censure en ligne des contenus politiquement sensibles, rappelle CNN. Mais l'intelligence artificielle renforce et accélère ce contrôle de l'information sur d'énormes volumes de contenus, en repérant des mots-clés, en limitant la portée de publications jugées problématiques, explique le Washington Post. Des géants technologiques chinois comme Baidu ou ByteDance, propriétaire de TikTok, joue un rôle clé dans ce processus, sorte de shérif adjoint auprès de Pékin, ajoute l'Institut australien de politique stratégique. Tencent, qui possède la messagerie WeChat, peut par exemple attribuer des scores de risque en fonction du comportement de ses utilisateurs, traqués sur plusieurs plateformes, ceux que le groupe considère comme des récidivistes grâce à l'un de ses outils de modération de contenu. Et pour surveiller encore plus les minorités, le gouvernement du Parti communiste de Lhasa, la capitale tibétaine, a lancé cet été un appel d'offres pour créer un modèle linguistique tibétain à grande échelle. En clair, résume le Washington Post, c'est une instrumentalisation des principes du marché au service de l'autoritarisme, et l'arme de l'intelligence artificielle sert désormais aussi au système judiciaire pénal en Chine, via notamment la reconnaissance faciale.
Enfin Catherine, les réseaux sociaux ont inventé des mots et deux d'entre eux ont été élus mots de l'année.
Ragebait, désigné mot de l'année donc par les presses universitaires d'Oxford et l'Oxford Dictionary, indique le Guardian. Alors Ragebait, littéralement appât à rage, sert à décrire les pratiques de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui cherchent à provoquer la colère des utilisateurs pour générer davantage de trafic, détaille le New York Times. Et puis le Cambridge Dictionary a lui choisi parasocial comme mot de l'année. Ce terme désigne une relation à sens unique dans laquelle une personne se sent proche d'un personnage de fiction ou bien d'une célébrité comme Taylor Swift. Alors, je ne sais pas si vous avez un rapport parasocial à Taylor Swift ou bien si sa surmédiatisation provoque en vous un rage bait. Plus sérieusement, j'attends vos messages sur ma chronique sur l'actualité internationale à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Un ou une spécialiste vous répondra dans la revue de presse interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.